Un mot maintenant sur quelque chose d'autre, et j'en terminerai probablement par là, parce que sinon vous en avez pour la nuit, il faudrait prévenir vos familles. Les médias. Dans ce que nous voyons de dérèglement dangereux, les médias ne sont pas neutres. Pour plusieurs raisons. D'abord, parfois, pour certaines raisons économiques. Dans les raisons économiques que je veux citer, il y a notamment le fait qu'on a mal réfléchi en Europe entre l'équilibre entre les secteurs privés, le secteur privé qui est fait de plusieurs opérateurs, et le secteur public qui a tendance à se rétrécir dans certains pays européens, un peu comme une peau de chagrin. En Pologne, c'est plus grand-chose. En Hongrie, c'est rien. De toute façon, ça a été complètement balayé par la tornade Orban qui a mis ses hommes à lui une fois pour toutes. Et tout ça ne tient plus debout. C'est vraiment extrêmement en mauvais état. Ce que je veux dire par là, c'est que les équilibres économiques doivent être réfléchis de deux manières. Il faut un certain équilibre entre le groupe public, les groupes publics, mais on a généralement deux ou un, ça dépend, plusieurs chaînes, et les groupes privés. Parce que qu'est-ce que c'est que le vrai choix d'un spectateur? Ça n'est pas cinq chaînes privées avec ma grand-mère sur la commode à la même heure, etc., achetées chez Fremantle, avec les mêmes recettes, on appelle ça concept, parce qu'il faut bien avoir un peu de noblesse dans un métier qui n'est pas toujours dans le haut du tableau, hein. Voir les anges et je ne sais pas quoi, enfin, c'est pas ça le choix. Le choix, c'est le choix entre quelque chose de léger, de très divertissant, même d'absurde, pourquoi pas, chacun a droit à ça, et quelque chose qui soit un contre-produit. De ce point de vue-là, les chaînes publiques, d'ailleurs, ne sont pas très à l'aise parce qu'elles n'ont pas encore vraiment choisi entre le moyen haut de gamme, la moyenne gamme et le moyen bas de gamme, parfois. Le choix n'est pas fait. Et pourquoi n'est-il pas fait? Pour une autre raison économique. C'est que la France est un pays indigent du point de vue de l'organisation financière des médias publics. Je m'explique. Si vous étiez allemand, vous avez deux grands réseaux publics qui s'appellent pour l'un ARD, 13 réseaux Länder plus 2 indépendants, ou bien la ZDF, qui est l'équivalent de France 2 actuellement en France. Hein. Vous auriez le choix entre ça et ça. Comment ces chaînes vivent-elles? Ben, évidemment, avec la redevance, c'est une taxe fiscale d'accès à l'écran, hein, et puis avec de la publicité. Je suis partisan qu'il faut faire attention à ne pas déstructurer le marché de la publicité, parce qu'on ne peut pas tout demander au privé non plus. Si le privé n'a pas un marché stable de la publicité et si possible en croissance, naturellement ça dépend de ses résultats d'audience, etc., eh bien évidemment, le système est déséquilibré, la concurrence va devenir vertigineuse, pas forcément dans le bon sens du terme. Et donc j'étais partisan qu'on réduise la masse publicitaire des chaînes publiques. Mais si vous étiez allemand ou si vous étiez britannique, vous entendriez parler de deux organisations qui gèrent le financement des réseaux publics de télé et de radio. En Allemagne, ça s'appelle la KEF, la Commission économique Funk, le F c'est Funk, hein, de la diffusion. Elle est faite de gens qui pourriez très bien être membre d'une commission identique, c'est fait de gens qui vous ressemblent, et qui reçoivent chaque année les prévisions des chefs d'entreprise pour les 4 années à venir. N+1, N+2, N+3. D'accord? Et la CAF dit, là vous êtes un peu gourmand, là attention dans votre projet, vous vous orientez stratégiquement, est-ce que vous êtes bien d'accord de vouloir ça, voulez-vous changer, etc. Ou bien, bref, non, là quand même, il vous manque de l'argent. Elle fait une recommandation, elle l'envoie au Parlement, au pluriel, des Länder allemands, qui sont souverains de la détermination de la redevance, ce qui est normal, c'est un impôt. Et il n'est arrivé qu'une fois, dans l'histoire de pratiquement 40 ans de ce système, que 5 Länder votent différemment de la recommandation de la KEF, pour des raisons qui n'étaient pas pures d'ailleurs, qui étaient un peu politiques, et puis aussi parce que la KEF, enfin bref, son accord semblait un peu excessif au Parlement. Très bien, ben, il faut accepter ça, c'est la règle de la démocratie. Et sinon, les parlements des Länder votent le montant de redevance des chaînes allemandes au niveau que lui recommande la commission neutre. En Grande-Bretagne, c'est encore mieux. C'est le board de la BBC. Mais le board de la BBC n'a rien à voir avec les gouvernements. ils sont sur la liste civile de la reine. Donc, le gouvernement, rien à faire. Hein. Et donc, ils reçoivent le projet des différents directeurs de chaîne organisés, centralisés par le directeur général de la BBC, et ils décident souverainement de recommander au Parlement, même chose, qui lui vote ce que dit le board de la BBC. Voilà des systèmes équilibrés, parce que si vous êtes dirigeant d'une chaîne radio ou télé, vous avez besoin de savoir ce que vous aurez comme argent dans 4 ou 5 ans. La France, qui est légendaire, je dirais, pour ses théâtres d'ombre, a inventé un truc qui ne sert à rien, qui est ridicule d'ailleurs, qui s'appelle les contrats d'objectifs et de moyens, que j'ai toujours refusé, moi, de signer, pour une raison simple, François le sait, c'est que j'ai toujours vu les objectifs, j'ai jamais vu les moyens, et il n'y a pas de raison de s'asseoir autour d'une table où l'autre partenaire ne tient pas ses engagements. Par conséquent, et alors on fait un décorum autour de la signature, mais ça veut dire quoi? De toute façon, c'est le Parlement qui fixera la redevance. Et le Parlement, il peut très bien demain matin saccager ce qu'un autre a essayé de construire la veille. Il faut un organisme qui ait une appréciation professionnelle de cette affaire. La politique dans cette affaire ne peut pas être rationnelle, il ne faut pas lui confier cette affaire. Il faut confier au Parlement le soin d'évaluer sur une durée par une commission neutre qui doit se rendre respectable. Bon, pour être respecté, en effet, il faut être respectable, et on voit bien par l'incurie du CSA actuellement qu'on est loin du compte. Loin du compte. Quelle étrange nomination à France Télévisions. Personnellement, j'en aurais nommé aucun des dirigeants actuels de N-1 et N-2 dans cet instrument-là. Et si j'en avais nommé un, c'est celui que Mme Ernotte vient de virer, Vincent Mellet, qui était un très bon spécialiste de la fiction. Il savait de quoi il parlait, il était donc normal qu'il ne reste pas. Je suppose que c'est ça. D'ailleurs, quand elle l'a reçu pour lui signifier son licenciement, elle l'a reçu dans le coin salon de son bureau en lui disant « Monsieur, je ne vous aime pas ». Il lui a répondu « C'est dommage, moi je vous aime bien ». Il a répondu, il a posé ensuite une question « Mais pourquoi donc avez-vous fait ça ?» Puisque c'est vous qui m'avez engagé il y a maintenant 10 mois. Bref, on voit bien que tout ça ne tient pas debout. Six directeurs en 6 ans, enfin, je parle devant toi, Eric, quelle entreprise sérieuse pourrait résister à une telle incurie, à un changement permanent, et puis à des, je dirais, à des aux faiblesses intrinsèques, non seulement du système, mais des personnes qui le dirigent. Donc voilà quand même quelque chose qui est tout à fait important. Je dis ça pourquoi? Parce que nous allons arriver dans une période électorale où la parole publique débitée à la télévision, notamment par les leaders qui prétendent à concourir à l'élection présidentielle, va être fondamentale. À quoi a-t-on assisté depuis maintenant bonne demi-douzaine d'années? À des, je dirais, pourvoyeurs d'audience. On est allé chercher Mme Le Pen, notamment sur France 2, plus souvent que de raison, le fait a été relevé, pour une raison simple, elle est en rupture, les médias fonctionnent en rupture, elle fait de l'audience, bon voyage, la démocratie là-dedans, les valeurs, tu repasseras. Ceci aurait dû être sanctionné par le CSA. Cette autorité, elle est gardienne des valeurs morales dont nous sommes, les gens de médias, en principe, responsables de leur application. C'est quand même insensé. Si dans un métier, vous ne faites pas ce qu'il est entendu que vous devez faire, quelque chose se passe. Là, il ne se passe rien. Donc, l'état des médias français publics n'est pas fameux. Et ça, parce que leurs résultats deviennent dangereux. Il faut savoir que la moyenne maintenant de France 2 est entre 11,5 et 12%. Et je sais bien que ça fait mauvais genre de dire ces choses-là, mais la vérité n'est pas faite pour plaire à tout le monde. Je n'ai que faire des consensus. C'est trop précieux pour l'opinion française. Ce sont des métiers trop précieux parce que n'importe qui ne peut pas débarquer n'importe comment dedans. Il faut être formé, il faut avoir de l'expérience, il faut savoir qui fait quoi dans ce pays, il faut savoir comment on peut en bénéficier. Faire de la fiction par des tas de gens, c'est bien. Ne pas aller chercher les grands auteurs que nous avons en France pour leur faire écrire des scénarios, c'est mal, etc. Se décharger de ses obligations culturelles en diffusant un concert, plus ou moins bien filmé en général, parce qu'on n'y met pas vraiment les moyens, il n'y a qu'à se souvenir des grands concerts qui ont été filmés aux États-Unis il y a maintenant presque 40 ans, pour voir ce que c'est qu'un concert bien filmé, mais ça prend du temps, il faut des moyens, etc. Eh bien, toutes ces choses-là doivent être remises un tout petit peu à leur place. Mais le plus sensible, et ce qui me fait peur, c'est le rapport entre un certain nombre de télévisions et l'opinion publique. Je dis ça parce que, par exemple, vous allez penser qu'il y a là quelque chose d'un peu excessif. Croyez bien que je suis en dessous de la vérité. Par exemple, dans le dernier débat des primaires de la droite française, après 2h15 de débat, l'une des journalistes dit à 7 personnes alignées en rang d'oignon, qui ont eu 3-4 minutes pour dire en gros comment ils allaient changer le pays, à chaque fois, thème par thème, enfin, c'est pas sérieux tout ça. Dernière question. Et pour l'éducation, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, vous avez une minute. Je trouve que, moi, patron de la formation, il y a des changements. C'est insensé de faire une chose pareille. Quand on sait de quel poids pèse l'éducation dans, disons, le bien vivre ensemble, pour parler un peu de façon pompeuse. Et donc, il y a là quelque chose qui ne remplit plus sa fonction. D'ailleurs, j'aurais pu dire la même chose pour les élections européennes. La plus grande chaîne française n'a aucun correspondant à Bruxelles. 63% des lois auxquelles les Français qui travaillent dans cette chaîne, comme vous tous, obéissent, viennent de Bruxelles. C'est quoi cette histoire? On est donc quand même dans une sorte de laisser-aller qui n'est vraiment pas prometteur de bonnes choses. Les chaînes d'information remplissent bien leur fonction d'information, mais pas du tout leur fonction de compréhension de l'information. Parce que tout est égal à tout. Hein. Un chien qui renverse un autobus sera à la une, et 300 morts au Caire, ce sera une brève en fin de journal éventuellement. Il y a une facilité qui s'est installée dans les médias, et on voit bien pourquoi. Dans les grands médias, il y a de l'argent pour les rédactions, mais il n'y a plus la place sur la programmation. Et dans les chaînes d'information, presque toutes déficitaires, à l'exception d'une qui est équilibrée, et pas forcément que pour des raisons de réussite de son programme, eh bien, on veut faire de l'information sans journaliste. Je suis désolé de dire que c'est un métier, c'est comme chirurgien, il viendrait à l'idée de personne d'aller vous faire opérer par un garagiste. Il y a un certain nombre de capitalistes en France qui ont débarqué dans les médias ces dernières années et qui pensent qu'on peut faire ça. Qu'ils ne fassent pas d'information, qu'ils achètent des catalogues et qu'ils les diffusent. C'est un autre métier, il est bien ce métier d'ailleurs, il est respectable. Vous voyez la dégradation de la fonction média. Alors quand je dis ces choses, il ne manque pas de gens pour me dire « oui, mais les réseaux sociaux ». Réseaux sociaux, c'est la liberté ouverte à tous. Ça rend des services indiscutables, extraordinaires, très bien, ça c'est vraiment... Et surtout dans les pays opprimés, par parenthèse aussi, où ils sont un vrai plus. Mais les réseaux sociaux distribuent des choses qui ne sont pas forcément vérifiées. La plupart du temps, souvent en tout cas, ils ne le sont pas. Il faut donc donner à l'opinion les moyens, et ce n'est pas si compliqué que ça, par les médias qui rassemblent, de pouvoir en juger, de pouvoir juger eux-mêmes. Et c'est bien ça le but dans une démocratie, de la place extraordinairement importante des médias. Donner à juger, pas juger à la place des gens, pas balancer des choses qui ne sont pas expliquées. Donner à juger. Voilà quelques-uns des axes sur lesquels l'avenir de la culture, les supports médiatiques et, je dirais, le redéploiement d'une certaine ardeur démocratique doit fournir aux citoyens de ce pays. Je n'ai pas une très grande confiance en les partis politiques pour raisonner sereinement sur cette affaire. En 1975, le 6 janvier, enfin par la loi d'août 1974, on a dispersé les chaînes publiques. On me dit qu'on s'apprête à les réunir. Objectivement, si ce n'est pas pour avoir un projet, je dirais, de service de la démocratie et de mise en évidence sous des formes simples, pour des gens simples, fatigués après une journée de travail, tout le monde dans ces métiers sait faire ça. Alors il faudra être extrêmement vigilant. Et nous sommes à un tournant de notre pays. On voit bien les menaces extrêmement graves qui pèsent dessus. Et je suis, moi, très effrayé de quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, celui qui parle le plus fort, qui invective, et pourquoi pas d'ailleurs injurie, emporte par la passion du propos toute forme de raisonnement qui servirait normalement à faire ses choix électoraux. C'est donc extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. J'ai une image qui me revient en tête, c'est celle des parlementaires de Berlusconi et de la Ligue du Nord surtout, rentrant au Parlement italien il y a 25 ans. Souvenez-vous qu'ils étaient entrés avec des cordes pour pendre les gens, et comme c'était un peu lourd à porter, ils avaient coupé la corde juste au-dessus du nœud et se sont baladés au Parlement comme ça. Je veux dire que le pire est souvent à nos portes et que seule la culture d'une part, le service est assez plus exigeant de la démocratie peut faire que les femmes et les hommes de bonne volonté soient mieux entendus que ceux qui font commerce de la peur, qui montent à tour de bras, mais qui sans doute rencontrent une audience assez importante dans un continent, dans notre pays, dans ce continent et même au-delà, où la fatigue des traditions démocratiques semble se faire sentir. Ça veut dire aussi combien il faut rénover cette démocratie, être exigeant avec ceux qui prétendent à exercer des fonctions publiques, je dirais même implacables. Bref, il y a du travail, du pain sur la planche. Ce travail, et j'en termine, n'a aucune chance d'aboutir si le socle réel, sérieux, que sont les citoyens de ce pays, considèrent que ça les concerne en premier chef. Je n'attends de salut réel que d'une levée, montée, redressement, prise en main des citoyens de ce pays, dans des alvéoles X ou Y, dans des mouvements citoyens, dans les associations de culture posant leurs souhaits, leurs exigences, leurs réflexions, car après tout, vous n'êtes quand même pas les plus mal placés pour réfléchir et dire ce qu'est votre réflexion, parce que, on le voit bien, les partis politiques ont repris en main ce que De Gaulle avait voulu éliminer. Quand Michel Debré a proposé au général De Gaulle le projet de constitution de 58, il avait écrit « Les partis organisent la vie politique de la France ». De Gaulle, de sa petite plume noire, a rayé ça, organise, et il a mis « Contribue à la vie politique de la France ». 60 ans plus tard, moi qui étais partisan des primaires, par exemple, j'en ai un peu froid dans le dos parce que les partis sont en train d'organiser pour qui vous aurez le droit de voter et pour qui vous n'aurez pas le droit de voter. Ça se terminera que le suffrage universel sera récupéré d'une manière ou d'une autre, qu'on reviendra, non pas à la quatrième, parce qu'il faut toujours avancer, même aveuglément, à la sixième ou je ne sais pas quoi, où on arrivera à un suffrage censitaire. Je sais bien que le suffrage universel n'était pas la panacée. Mais comme disait Churchill, la démocratie, c'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. La culture dans cette affaire doit donner aux dirigeants de ce pays, à ceux qui les servent, une sorte de vigilance exigeante, sortir naturellement de ce que les élites ont l'habitude de faire commerce entre eux, porter cette culture devant l'opinion, la mettre à la disposition des gens. Mais on ne pourra pas faire des citoyens de bons démocrates si d'abord on n'a pas flatté leur intelligence plutôt que ce qu'il y a en dessous de la ceinture. Voilà mon opinion assez politique au grand sens du terme d'ailleurs, que j'ai fini par, après une douzaine d'années dans la vie publique et presque 40 ans dans la vie des médias, c'est dire si les turpitudes médiatiques, j'en ai pris ma part, hélas aussi. Merci beaucoup.